Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Disclaimer juste avant que ça commence, Guillaume est dans un aéroport, donc il y a des chaises qui traînent, des portes qui grincent, des bébés qui gueulent, c'est la trilogie du banger, mais quand il parle pas, il se met lui-même en mute et donc il n'y a aucun problème de son dans ces moments-là, donc pas de panique, c'est normal s'il y a du bruit de fond, et l'extrême majorité du podcast, le son sera clean.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, salut Big Rusty, preview d'Alexander Volkanovski contre Ilia Topuria. Big Rusty, ça faisait très longtemps que j'avais pas été hypé pour un combat chez les Featherweight. Pourquoi les gars? Pourquoi? Parce que Volkanovski, si vous suivez un petit peu, s'est fait mettre KO contre Islam Makhachev dans son improbable pari pour devenir champ. Oui, je suis dans un aéroport, c'est pour ça que c'est un petit peu le bordel. Et donc là, il revient dans sa catégorie, catégorie dans laquelle il est maître. Zéro défaite en carrière pour Volkanovski dans cette catégorie Featherweight. Et là, il tombe face à Ilia Topuria. Plein de confiance, invaincu en carrière, et surtout on a envie de se dire quelle est la mine pour Ilia Topuria. Comme on va dire, et j'ai envie de dire Big Rusty, comme chaque fois qu'il y a un mec qui est invaincu, on se pose tous la question, jusqu'où peut-il aller? Et on va voir avec Big Rusty si il y a bien risque pour l'actuel champion Featherweight. Big Rusty, est-ce que l'intro est exhaustive?
Ouais, je crois bien, tu fais du bon travail, hein. Tu vas peut-être en faire ton métier.
Hein. Oh merci chef, merci. Allez, c'est parti générique. Swear.
L'UFC, sa vie plus fort, avec Betclic.
Big Rusty, avant de faire les pronostics, vous savez qu'on fait les pronostics à chaque fin de podcast, est-ce que je peux avoir les codes sur Betclic, Big Rusty, pour voir les forces en présence, et surtout pour voir si, parce que j'avais vu ça, apparemment, ils avaient tous les deux la même cote, il y a quelques semaines de ça.
Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils n'ont pas la même cote, mais Alexander Volkanovski est à 1,80 et Topuria est à 1,90. C'est-à-dire que c'est vraiment du touche-touche et que selon, en tout cas, les beatmakers, les matchmakers, comment on dit, oddsmakers.
Mais non, les...
Ceux qui font les cotes.
Bah c'est pas possible. Les bookmakers, voilà.
Bon, voilà. Les bookmakers, ouais. Donc selon les bookmakers, ça veut dire que vraiment, ils sont à kiff-kiff. Et on va le voir, et on va rentrer dans le vif du sujet direct, mais c'est vrai que je pense que le chaos qu'a pris Makhachev il y a littéralement 3 mois, on sait, on connaît la litanie de combattants qui sont revenus trop tôt et qui, après un chaos, sont revenus que quelques mois après en mode « Non, non, mais il faut que je remonte sur le cheval, justement, ce qu'il faut, c'est recombattre très vite, je vais me remettre dans le bain », et qui reperdent, qui perdent à nouveau, ou même pire, qui se font remettre KO. Et... On sait que Alexander Volkanovski, il l'a dit à maintes reprises, il a besoin de combattre. Il est limite en dépression quand il ne combat pas, quand il n'est pas même en camp d'entraînement dans sa vie de tous les jours, s'il n'a pas ces objectifs-là. Et du coup, il a besoin de revenir pour sa santé mentale parce qu'il a envie de continuer à avancer dans sa carrière, etc. Mais est-ce qu'il ne revient pas trop tôt? Et est-ce que c'est pas la mauvaise raison, comme c'était le cas pour Makhachev. Hein. On rappelle, il est revenu contre Makhachev alors que selon ses propres dires, il buvait tous les jours de l'alcool et en gros, il était un peu à l'abandon. Mais et à cause de ça, à cause du fait que justement, il n'était pas bien dans sa tête parce qu'il ne combattait pas, parce qu'il n'était pas en camp d'entraînement, qu'il n'avait pas d'objectif, etc. Et il a pris le combat contre Makhachev à la dernière minute, à la va-vite, en mode parfait, parfait, oui, je veux juste combattre, allez, c'est bon, j'y vais. Donc, on sait que, je finirai là-dessus pour la première partie de l'intro, mais du podcast, pardon, mais bien qu'il soit ultra intelligent dans la cage et dans sa manière de préparer les combats Volkanovski, il a pu prendre des décisions à la va-vite et j'aurais peur que celle-ci n'en soit une, tu vois.
Je partage ton avis, Birosti, de façon à un seul l'octogone donnera sa réponse. Est-ce qu'on va commencer peut-être par le striking des deux hommes, Big Rusty? Parce que c'est vrai que c'est un domaine dans lequel les deux sont particulièrement dangereux, dans des styles résolument différents, parce que c'est vrai qu'Ilia Topuria, si je ne m'abuse, prend quand même beaucoup de coups, Big Rusty.
Alors oui, mais... il prend beaucoup de coups, mais... C'est parce qu'il aime être au contact, parce qu'il est essentiellement en anglaise. C'est-à-dire qu'il met de temps en temps des low kicks Ilia Topuria, et quand il les met, ils sont puissants, mais c'est quand même assez rare. le style Topuria debout en striking, c'est vraiment quasiment exclusivement avec ses poings qui fait les dégâts. Et donc, il a besoin d'être assez proche de son adversaire. Et donc, forcément, comme il les stalk, c'est-à-dire que vraiment, il essaie de les cadrer, il avance constamment vers eux pour essayer vraiment de petit à petit mettre la pression et les coincer contre la cage pour les mettre dans une situation où lui a un peu plus l'avantage parce que donc, il leur coupe une retraite, c'est-à-dire il leur coupe la possibilité de reculer. Et donc, ben forcément, il a une distance où il prend aussi plus de coups parce qu'il avance, parce qu'il a une distance d'anglaise. Néanmoins, honnêtement, ses mouvements, que ce soit ses mouvements de tête ou ses mouvements de buste, son coup d'œil et son timing, notamment dans ses contres, font que, et en plus il a un très bon menton, font que même si il prend des coups, c'est vrai, de par son style, quand tu es à la distance d'anglaise, c'est quand même surtout toi qui es en danger. Parce qu'il a des combinaisons qui sont meurtrières, parce qu'on sait qu'il peut mettre KO en un seul coup et il l'a fait de nombreuses fois. Et vraiment parce que t'as pas vraiment le droit à l'erreur, quoi. La moindre ouverture, il va vite, il frappe fort, il a une belle précision et un bon timing. Donc, oui, il prend des coups, mais un, il peut les encaisser, et deux, ben, s'il prend des coups, ça veut dire que toi-même, t'es à distance d'en prendre, en fait. C'est con à dire, hein. C'est un peu comme à l'époque, la méthode du catch and pitch de Justin Gaethje, où il attendait de se faire frapper dans sa garde pour savoir qu'il était à bonne distance pour te frapper en retour.
Mais Big Rusty, je te pose cette question-là, c'est pas du tout innocent, Big Rusty, parce que c'est vrai que, mine de rien, il y a tout poids dans les adversaires qu'il a affrontés, même si on a vu petit à petit ça, certes monté en termes de prestige et en termes de difficulté sur le papier, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il affronte déjà un vrai gars qui a l'habitude de construire tactiquement ses victoires, et quand je dis tactiquement, c'est on va dire, même s'il doit s'imposer round par round, il le fera, Volkanovski, il l'a montré notamment contre Max Holloway, donc forcément, t'es pas comme avec un Josh Emmett et avec des mecs comme ça, où forcément, t'as quand même ce côté, le chaos va venir, et est-ce que le jeu qu'il a, Ilia Topuria, ça peut pas, malheureusement pour lui, faire que les rounds vont défiler en faveur de Volkanovski.
C'est possible. Bah, en fait, justement, ça va vraiment dépendre de la manière dont je pense. Ça va plus dépendre si ça reste debout, mais ça va plus peut-être dépendre effectivement de Volkanovski plus que de Topuria. Parce que tu vois, tu as cité le combat contre Josh Emmett. Le combat contre Josh Emmett, c'est 5 rounds où Topuria, il est à son rythme. Il fait ce qu'il veut, grosso modo, parce que c'est lui qui choisit les engagements, c'est lui qui choisit un peu le rythme du combat. Et grosso modo, il a pu faire 25 minutes tranquille parce qu'il avance tranquillement. Il n'est pas trop mis en danger par Josh Emmett. Il y a des échanges où ça claque, hein, c'est sûr, mais dans la majorité du combat, c'est vraiment lui qui dicte. Et il jab, ses jabs sont magnifiques. Il utilise ses feintes de jab. Enfin, littéralement, il pourrait presque gagner des combats qu'avec son jab, Topuria. Il utilise ses feintes de jab pour faire un peu paniquer et lire les réactions de ses adversaires. Et ensuite, soit du coup, il retime encore mieux ses jabs en les feintant ou en les doublant, soit en mettant un bras arrière. Mais c'est vraiment magnifique. Mais effectivement, pour répondre à ta question, quand ce n'est pas nécessairement lui qui contrôle le rythme du combat, ça peut être plus compliqué, notamment, et c'est là où c'est super intéressant, face à un gars comme Volkanovski, qui lui, va pas laisser Topuria rentrer dans son rythme à lui. Il va feinter énormément, et on sait que Topuria est bon en contre, il a un très bon coup d'œil, mais le fait de les feinter, que ce soit... En anglaise, oui, parce qu'il a un très bon jab aussi, Volkanovski. Une fois qu'il aura réussi peut-être à installer son jab, les feintes marcheront mieux. Il va probablement aussi le harceler en low kick et peut-être en middle s'il est à bonne distance, Volkanovski. Et donc, effectivement, le côté Volkanovski qui va petit à petit, au fur et à mesure du combat, après avoir installé son jab et son low kick avant, parce que c'est vraiment les armes qu'il utilise pour construire, et ses feintes, ça va être la première fois probablement que Topuria effectivement tombe contre quelqu'un qui a autant d'armes, sait aussi bien les utiliser, fait mal et ne baissera pas de rythme sur les 5 rounds. Et c'est pour ça que je suis super curieux de voir ça effectivement, et notamment parce que je pense qu'une des clés peut-être du combat pour Volkanovski, c'est le cardio et le côté harcèlement. Parce que, et tout ça c'est lié dans le sens, Topuria tombe contre quelqu'un contre quelqu'un comme Volkanovski qui non seulement maîtrise toutes ses armes à la perfection et construit le combat, mais en plus, quand il le veut, il peut vraiment mettre le pied sur l'accélérateur pendant les 5 rounds. Et on a vu que ça faisait la diff, que ce soit par exemple contre Chad Mendes. Alors, ce n'est pas le même profil que Topuria, mais c'est un gars qui n'est pas forcément très grand, qui utilise beaucoup sa boxe anglaise, qui a une très bonne lutte et un bon sol. Et en fait, la manière dont il l'a battu Volkanovski, c'est qu'il l'a fait reculer et il ne l'a jamais lâché. Mais jamais, jamais, des feintes constamment qui fait que Mendes est constamment en train de se demander ce qui se passe, constamment en alerte, constamment en train de se demander qu'est-ce qui va, est-ce que c'est un low kick dive, est-ce que c'est un middle, est-ce que c'est un jab, est-ce que c'est une combinaison. Et ça, additionné à, au coup quand il passe, au coup au corps, au low kick, et additionné au travail notamment en clinch contre la cage, on fait que, il me semble que c'est au deuxième round, mais que Chad Mendes était cuit. On sait que Chad Mendes, ça n'a jamais été le cardio, son gros, gros point fort, mais pour le faire être complètement cuit en un round et demi, c'est quand même balèze. Et je mettrais ça en résonance avec le combat qu'a fait Ilia Topuria, je crois que c'était son premier à l'UFC contre Youssef Zalal. Et Youssef Zalal l'a fait travailler Topuria pendant les trois rounds, au sol parce que Topuria voulait aller au sol, et debout aussi parce que Youssef Zalal, il est grand et puis il utilise son allonge et il se déplace beaucoup, etc. Et à la fin des trois rounds, il était crevé Topuria. Il commençait vraiment à puiser, il commençait vraiment à taper un peu dans le rouge, tandis que Youssef Zalal, d'ailleurs, pour le coup, lui, il était encore frais, et c'est simplement qu'il a eu une belle intelligence de combat Topuria et qu'il l'a amené au sol dans les toutes dernières secondes, mais c'est lui qui reculait et il était vraiment dans le mal. Donc, c'est pour ça que debout, très franchement, il y a un gros risque, bien sûr, pour Volkanovski de prendre une combinaison de l'enfer comme ce qu'a mis Topuria, par exemple, à Herbert, ou de prendre un énorme uppercut, de se faire talader en jab pendant les cinq rounds et au fur et à mesure, il y a Topuria construit. C'est vrai et c'est possible. Et c'est très dangereux. Et notamment, Volkanovski, dans son combat contre Chad Mendes, prenait des énormes patates aussi. Mais si le menton de Volkanovski n'est pas ébréché et est le même qu'il a eu pendant toute sa carrière avant le combat contre Makhachev, si on était dans ces conditions-là, j'aurais quand même confiance, même debout, pour Volkanovski, simplement par son expérience, par le fait que lui aussi peut faire mal, même s'il n'a pas le même knockout power, et qu'il peut le harceler, avancer constamment sur Topuria et jouer sur ce côté cardio.
Eh oui, Big Rusty, parce que c'est un point qui est important, je ne sais pas si on va s'attarder là-dessus, parce que forcément, par rapport à tout ce que tu évoques, c'est peut-être celui où on va dire le moins tangible, mais c'est vrai que pour Volkanovski, il revient d'un KO contre Islam Makhachev, une défaite traumatisante pour lui, et comme vous l'avez vu quand Kamaru Usman est revenu face à Leon Edwards, forcément, c'est le genre de défaite. On peut être dans des situations qui font que le corps est là, mais mentalement, tout ce qui vous fait que vous ayez 0,5 secondes d'avance d'habitude, là, vous ne les avez plus. Et dans un sport comme le MMA, où il y a tellement de paramètres, c'est vrai que pour Volkanovski, on peut être dans une situation où on va le retrouver un peu off, un peu... pas le Volkanovski qu'on a l'habitude de voir, et ce sera peut-être pas forcément un déclin, mais c'est peut-être, mine de rien, le chaos qui date quand même d'octobre, et comme tu as dit, qui est assez récent, qui pourra peut-être faire qu'on a un Volkanovski qui sera... pas le Volkanovski habituel et qui pourrait être dans des situations assez compliquées. Mais ce qui est difficile, c'est on ne sait pas comment il va revenir. Et donc, il n'y a rien qui peut nous faire dire « Ah bah, on va avoir tel ou tel Volkanovski ». Là, on se base uniquement, et je pense que tu es d'accord avec moi, sur le Volkanovski qu'on a vu durant toute sa carrière jusqu'à maintenant.
C'est ça. Le Volkanovski il faisait du rugby à, je sais plus, il faisait 93 kilos, etc. Il a commencé sa carrière même en welterweight. C'est le Volkanovski... le tank, en fait, le tank Volkanovski. Alors certes, il avait pris des knockdowns, d'ailleurs notamment contre Chad Mendes, certes, et voilà, il n'avait pas un menton infaillible, mais à chaque fois, c'était un peu des flash knockdowns, il remontait direct en se marrant, en criant tellement il était heureux d'être là, etc. Là, c'était vraiment la première fois où on le voit sécher sur un coup de tibia comme ça, et de manière aussi brutale, et aussi, il a été mis KO, quoi. Et donc, c'est on ne peut pas en dire beaucoup plus parce que tout dépend de ce qu'on va voir le jour du combat même et on n'aura la réponse qu'à ce moment-là. Mais, t'as bien fait, il faut le notifier. Ça peut être, si ça se trouve, un truc qui fait déjouer Volkanovski, un truc qui fait qu'on n'a pas le Volkanovski d'habitude, qu'il est timide, qu'il n'ose pas y aller, qu'il passe un peu trop de temps dans la poche alors qu'il n'aurait pas dû et qu'il prend un contre.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et ça, on le saura que le jour du combat. Quoi.
C'est ça, c'est important d'avoir ça en tête. Big Rusty, il y a aussi un point qui est important, c'est le sol. Et le sol, notamment d'Ilia Topuria, ceinture noire en JJB. Ilia Topuria, 8 soumissions en carrière. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on pense directement. Et puis du côté de Volkanovski, si vous êtes fervent supporter du divin chauve, et ben vous allez peut-être vous dire que Volkanovski, il a survécu à Islam Makhachev lors du premier combat au sol. Il a survécu à des tentatives de soumission de Brian Ortega, pas de soucis. Mais est-ce qu'il peut y avoir inquiétude sur un Ilia Topuria qui est vrai, qui est particulièrement, je trouve, opportuniste dans ce domaine-là, puisque quand même, hein, il a réussi à en amener au sol des sacrés gars, et puis il a aussi, donc c'était quoi, TKO contre Ryan Hall et soumission, mais condition particulière, contre Bryce Mitchell, chouchou de Big Rusty.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tout peut se passer, tout peut arriver, c'est du MMA, mais si je devais parier, je ne parierais pas sur une soumission de Ilia Topuria. En fait, il est ultra chaud, Ilia Topuria. Il a jamais été lui-même vraiment en danger, en tout cas des combats dont je me souviens et que j'ai pu voir, et en tout cas ceux à l'UFC, il a jamais été mis en danger au sol par qui que ce soit. Lui, il a mis en danger beaucoup de monde, voire même il en a soumis, et notamment tu as cité Bryce Mitchell, mais... Bryce Mitchell, comme tu l'as dit, en fait, c'est un peu spécial parce qu'il l'a d'abord éclaté debout avant de le terminer en guillotine. Donc, t'es pas le même humain quand tu viens de prendre 5 coups de pelle, quoi. Et à part ça, ben oui, il a utilisé de temps en temps sa lutte. Et oui, par exemple, contre Josh Emmett à la fin du 5e round. Oui, il a utilisé sa lutte dans certains combats, d'ailleurs, notamment celui de Youssef Zalal aussi. Et il a un très bon contrôle quand c'est lui qui est au-dessus et que voilà, il tente tout un tas de soumissions. Lui-même, il est opportuniste. Il essaye vraiment de terminer ses adversaires. Quand il ne peut pas les terminer, il reste en position contrôle, en position au-dessus, et il les étouffe. Mais c'est un finisseur. Mais je n'ai pas l'impression au point où, quand c'est au sol, c'est vraiment comme Charles Oliveira, c'est genre une question de temps avant qu'il te termine, ou alors voilà, un dégât de cet acabit-là. Donc, en plus, comme on parle quand même de Volkanovski qui a survécu absolument à tout le monde, je ne parierais pas là-dessus. Alors, peut-être que ça peut arriver un peu à la manière d'un Bryce Mitchell, c'est-à-dire il se fait assaisonner debout et donc il se fait ensuite terminer, mais parce que la tête n'y est plus vraiment. Mais un Volkanovski qui est en contrôle et lucide, franchement, je ne vois pas ça arriver, quoi.
Big Rusty, est-ce qu'on a des points à ajouter ?
Ah ouais. Bah, en fait, si jamais il s'installe, Topuria, il a une mécanique de frappe qui fait que il frappe lourd sans avoir besoin nécessairement d'y aller à fond. Et on a vu la tête et l'état dans lequel il a laissé Josh Emmett, simple, grosso modo, presque qu'avec son jab. Mais ben voilà, c'est vraiment parce qu'il a fait ce qu'il voulait pendant 25 minutes. Le clinch que peut imposer Volkanovski, notamment, donc, bon, déjà, bien sûr, pour faire travailler les lactiques, pour faire travailler musculairement sur des efforts de lutte, de préhension, etc. En plus de ça, c'est ce qu'il a fait contre Chad Mendes aussi, Volkanovski, mais quand il presse son adversaire contre la cage, mettre des gros coups de genou de porc, quand il ressort du clinch, y aller avec des petites combinaisons en anglaise aussi, mais vraiment ne pas s'arrêter. Et on sait qu'il peut le faire, Volkanovski. Et même si, justement, on sait qu'il a un très bon timing, Ilia Topuria, et que c'est un risque de venir le coller, de venir en distance rapprochée, etc., ça, additionné à toutes les feintes à submerger d'informations Ilia Topuria, c'est vraiment un truc, notamment avec un peu l'école City Kickboxing, avec Eugene Berman. C'est un truc qu'ils savent faire à la perfection. Ouais. Donc, même s'il y a cet inconnu en termes de menton, j'ai presque envie de dire, on va voir ce que peut donner Ilia Topuria quand il est face à ce niveau-là de compétition qui est le meilleur du monde. Mais de ce qu'on a vu pour l'instant, en tout cas, j'ai presque l'impression qu'il pourrait rendre le combat facile, Volkanovski. Peut-être que c'est une fausse, une analyse qui est biaisée, ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il a plus d'armes. J'ai l'impression qu'il a un peu cette arme de la quatrième dimension, qui est travailler le cardio, etc., sur Topuria. Et donc, Et donc voilà, tout simplement.
Mais pour le coup, Big Rusty, moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce combat-là, c'est que les deux sont absolument sur deux. D'un côté, il y a Ilia Topuria qui a déjà mis en bio le fait qu'il était champion, qu'il est à 15-0 en carrière. Ouais. De l'autre côté, Volkanovski, en mode, mon petit pote, là, samedi soir, tu vas te rendre compte de ce que ça fait que de m'affronter. Et j'aime beaucoup parce que bah, les deux ont mis en place une stratégie où ils sont persuadés qu'ils vont exploser l'autre. Il n'y a pas de « je m'attends à un combat difficile, ça va... » Les deux sont sûrs.
Ouais, mais justement, et c'est là où ça peut être intéressant, c'est Topuria, il est tellement sûr de lui et sûr des dégâts qu'il cause. Je ne sais pas si c'est lié à sa confiance en lui, c'est peut-être tout simplement son style de combat, mais ben, il y a des moments où il est tellement sûr qu'il ne peut rien lui arriver que c'est pas qu'il fait des erreurs, mais qu'il se laisse un peu... Par exemple, il y a des combinaisons qu'il va donner, le dernier coup, il va vouloir tellement faire mal à l'adversaire qu'il va lui-même se déséquilibrer. Ça arrive assez souvent dans ses combats, tu vois, il va mettre une grosse patate. Si elle passe pas et que le mec l'esquive, il est un peu emporté par son élan. Et ou alors, cette confiance, ça peut aussi être, ou en tout cas cette confiance liée très très étroitement à la volonté de faire mal, la confiance qu'il a en son sol et en le fait qu'il a jamais été battu donc ni terminé, ça fait aussi que... ben comme il est très très centré sur la boxe anglaise et qu'il n'a pas peur d'aller au sol, bah c'est ce qui a fait aussi qu'il s'est fait emmener au sol, notamment par exemple par Bryce Mitchell, parce qu'en gros, il était à l'aise en anglaise, il commençait à éviter un peu les coups, etc. Et en fait, bah Bryce Mitchell, il a fait le truc entre guillemets bateau, mais qui a parfaitement marché, c'est bah, il lui fait une petite combinaison en anglaise, ce qui fait que Topuria rentre dans sa garde d'anglaise, il commence à esquiver les coups, mais donc concentré sur ce qui arrive à la tête par les coups, etc., bah, il a plongé dans les jambes, il a fait... il a plongé dans les jambes ensuite Bryce Mitchell et il a mis au sol Topuria comme ça. Et ben en réalité pour Volkanovski, je pense que on parle de debout du combat qui peut se passer debout. On parle du clinch pour peut-être le crever un petit peu aussi. On a parlé du sol, mais du sol de Topuria. Mais un des chemins peut-être vers la victoire pour Volkanovski aussi, c'est donc d'utiliser ça, c'est-à-dire un son timing et la manière dont il peut amener les takedowns. Parce que voilà, on sait qu'il a une très bonne lutte et qu'il est très puissant, Volkanovski. Et s'il arrive à mettre au sol Topuria, bah même s'il n'arrive pas à le soumettre, enfin, il pourra essayer en tout cas, mais on sait qu'il peut faire du dégât aussi quand il est au sol, Volkanovski. Alors, il y a eu le combat contre Yair Rodriguez où il a vraiment un peu exterminé Yair Rodriguez au sol, Volkanovski, mais après, ce n'est pas les mêmes morphotypes, ce n'est pas les mêmes gardes, ce n'est pas les mêmes manières de faire du sol qu'il y a au Topuria. Mais... bah, il l'a fait avec d'autres combattants aussi, Volkanovski. C'est vraiment un truc que tu as l'impression qu'il garde quand ça s'applique au mieux et qu'il sait que le game plan s'y applique et que ça a vraiment une raison d'être là. Il a sa lutte, elle est extraordinaire. Et quand il met les gars au sol et qu'il les contrôle, bah, il les contrôle bien et il fait mal. Donc, même si on parle, ouais, c'est ça, du striking de Volkanovski qui est absolument somptueux, ben, c'est peut-être par la lutte, les mises au sol et le contrôle qui peut aussi, gagner le combat, gagner les rounds, mais crever aussi Topuria et gagner le combat, quoi.
Comme il l'a déjà fait par le passé, entièrement d'accord, Big Rusty. Est-ce qu'on passerait pas au pronosticos?
Bah ouais, hein.
Eh ben, c'est bon parti, les gars. Los pronosticos. Alors, Big Rusty, quel est ton pronostic? Aura-t-on une sixième défense de ceinture de la part d'Alexander Volkanovski, champion depuis décembre 2019? Franchement, mettez un petit peu de respect sur son nom quand même à ce monsieur, ou bien ouais. Est-ce qu'on va avoir un petit tremblement de terre?
Bah, en fait, s'il n'y avait pas eu le KO de Makhachev, j'aurais été déjà encore plus confiant. Et s'il n'y avait pas, entre guillemets, cette confiance en lui qui fait douter tout le monde, moi-même, il me fait douter Topuria tellement il est certain de lui, tellement il a vraiment cette espèce d'aura un peu à la McGregor, tellement il n'a aucun doute dans son esprit qu'il va terminer Volkanovski. Et en plus de ça, bah, il a le 14-0 pour prouver qu'il est légitime. S'il n'y avait pas ça et que c'était juste compétence contre compétence et ce qu'on a vu dans la cage, bah, j'aurais eu tendance à dire que Topuria est extraordinairement bon, mais que Alexander Volkanovski est quand même au-dessus et qu'il allait normalement le battre. Donc c'est ce que je vais dire, mais en ayant un peu peur quand même d'une espèce de destin qu'a l'air d'apporter Topuria, tu vois. Donc je vais dire Volkanovski, je vais dire par décision, mais purée qui fait peur, Topuria.
Je partage ton avis, Big Rusty, et je vais être un petit peu plus offensif. Je vois une victoire de Monsieur Alexander Volkanovski par KO au cinquième round. Wow. Oui, parce qu'il est extrêmement dur, il y a Topuria.
KO ou TKO?
KO. KO. Ah, je pense KO, Civière, il y a plus personne pendant un petit moment. Ah non, je pense vraiment, parce que tu vois, c'est vraiment ça. Je pense que c'est, on est dans cette situation des mecs qui sont invaincus et qui tombent sur le gars qui est quand même un talent générationnel. Et je pense que pour le coup, il va être trop dur pour son, enfin tu vois, comme quand on a vu Brian Ortega contre Holloway, Brian Ortega contre Volkanovski, en gros des mecs qui sont tellement durs que finalement t'as envie que le combat s'arrête un peu. Et là je pense que dès le 3e round il sera cuit, mais que 4e, 5e il va trop se faire assaisonner jusqu'à ce qu'il y ait le coup de trop, et où là c'est, enfin tu vois, c'est le corps tout simplement qui abandonne. Et c'est pour ça que moi je vois une victoire par KO d'Alexandre Volkanovski Big Rusty. J'en profite également pour vous dire, hein, sur Betclic avec le code SUR vous avez 100€ offerts. Raisonnablement, bien évidemment, les gars, ne tombez pas dans l'excès, et il faut avoir plus de 18 ans. Et donc, Volkanovski cote à 1,80, qui est légèrement favori. Assez surprenant. Tu voulais ajouter, Big Rusty ?
Ouais, bah juste, tu vois, tu parlais de « il est trop dur pour son propre bien, il y a tout pour rien ». C'est effectivement potentiellement vrai. J'ai envie de dire, on le saura quand on le verra comme ça. Peut-être s'il est testé sur 5 rounds et c'est compliqué, mais en tout cas, le fait qu'il soit archi dur... Oui, ça c'est une certitude. Hein. Déjà, au-delà du fait qu'il n'a pas peur des coups, le combat contre Jay Herbert, il se fait démonter sur le premier round parce que Jay Herbert, bah déjà c'est en lightweight, Jay Herbert est très grand, il utilise très bien un, son allonge, mais deux, ses genoux et ses kicks et son jab, son allonge, etc. Il bouge beaucoup. Un cauchemar pour Ilia Topuria. Et il mange, je crois qu'il prend deux knockdowns, il me semble, dans le premier round d'Ilia Topuria. En tout cas, un sur monstrueux sur un high kick. Et le deuxième, il prend un coup de genou. Mais enfin, la tête de Topuria va dans ce sens-là, le genou de Jay Herbert va dans ce sens-là, et bah, et pleine, enfin vraiment, mais pleine mâchoire, pleine bouche. Et il continue, et c'est lui qui met KO Jay Herbert au deuxième round. Donc ouais, en tout cas, sale dur à cuire quand même Topuria.
Sale Big Rusty, je voulais ajouter un petit mot parce que oui, avec Big Rusty, on sera forcément devant l'UFC 298, ça fait plaisir. La carte est sympathique vraiment, on a Merab Dvalishvili contre Henri Cerrudo, on a Geoff Neal contre Yann Gary, le combat qu'on voulait déjà voir au mois de décembre, il y a des petits comptes à régler évidemment, et... Robert Whittaker contre Paulo Costa, même si Big Rusty, vous le connaissez, il n'aura confiance en ce combat qu'à partir du moment, genre vers 5h30 du mat, quand les deux gars seront dans la cage. Mais sinon, franchement, elle est simple, elle est vraiment bien cette carte. Il manque juste, en fait, si vous voulez, je pense que vous aussi qui regardez ce podcast-là, il manque le méga fight pour que tout le monde s'y intéresse. Mais quand on regarde, on a vraiment une carte principale où il n'y a aucun combat à acheter. Parce que, et j'ai même envie de dire, l'ouverture de carte avec Anthony Hernandez contre Roman Kopilov, qui est le nouveau mec chez les middleweight, elle est vraiment sympa. Ouais.
Ah mais complètement, ça va être un combat, ça aussi un vrai combat de malade, et hâte de le voir. Non, impressionnant.
Ah. Eh ben parfait Big Rusty, en tout cas, on se retrouve d'ici là dans la semaine. See ya.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.